Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Will of MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Will of Cinéma. À Will of MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, même quand on est confiné ou à moitié confiné. On a le droit de mettre le nez dehors, mais là, on n'a pas encore le droit d'aller dans les salles pour rigoler. Donc, on va puiser un peu dans notre panier à archives d'artistes et de créatifs du cinéma dont on voulait parler. Et évidemment, on s'est dit, il y a un moment, il faut qu'on parle de Carverne et de Lépine, qui sont un peu maintenant les tauliers d'une certaine forme d'humour, d'une certaine forme de cinéma qui a ses fans et qui a ses succès. Et à mes côtés, j'ai deux chroniqueurs révolutionnaires. Je pèse mes mots. La très révolutionnaire Perrine Kenson.
Bah oui, c'est siempre commandante Daniel, quoi.
Mais... Exactement, merci.
Je sais pas.
Et bien évidemment, l'altermondialiste Hugo Alexandre.
Salut Daniel, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait plaisir de t'avoir, même si on n'est pas encore à l'étape où on se prend dans nos bras et qu'on se fait des bisous. Mais ça ne saurait tarder. Et juste pour l'anecdote, quand j'y réfléchis maintenant, on devrait être dans une salle à Cannes, normalement, toi et moi, là. Toi et toi aussi, Perrine, on devrait être dans la même salle en ce moment à regarder un film d'humour roumain, une bonne comédie, bonne comédie sur la mafia italienne où tout le monde meurt, un truc avec des Chinois qui se trucident à la machette. C'est le moment où il y a un peu de l'humour de festival. Et il y a un truc qui est vrai avec Carverne et Delépine, c'est que maintenant, ça devient un humour de festival puisqu'ils ont eu une palme, pas une palme, mais ils ont eu un grand prix récemment pour Effacer l'historique, leur prochain film qui devait sortir là.
C'est vrai.
Alors, si j'ai bien compris, vous l'avez vu tous les deux.
Oui.
On l'a vu et en fait, c'est pas récent que ce soit des réalisateurs de festival parce que je viens de voir il y a pas longtemps Avida, qui est leur deuxième film, et j'ai appris qu'il avait été sélectionné à Cannes, justement. Alors, je crois que c'était hors compétition, mais d'ailleurs, c'est peut-être leur film le moins accessible et qui fait très film de festival, justement. Alors, ils ont un peu édulcoré leur cinéma depuis. Et peut-être qu'ils reviennent à quelque chose de qui est un peu à mi-chemin entre les deux, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent avec un lion d'argent.
Un ours d'argent. Le lion, c'est Venise.
Un ours d'argent, c'est pas mal quand même.
Je confonds les animaux.
Oui, je comprends.
Je pense que quand ils ont fait Avida, je pense qu'ils auraient pas pu espérer un truc aussi gros, quoi.
Non, puis, surtout que c'est pas vraiment leur meilleur, donc.
Non, puis surtout, je pense pas que c'est été leur ambition en réalité. À ces deux mecs-là, je suis pas sûre que.
Alors, quelle est leur ambition en vrai ? Tu soulèves un bon point, Perrine. Quelle est l'ambition de ces deux mecs du haut de leur société, ce qui s'appelle Nomoni Productions ? Est-ce que c'est vraiment toujours faire des films à l'arrache avec des petits bouts de ficelle ? Ou quelle est leur ambition ? Parce que le précédent, il y avait clairement une grosse ambition, justement, à la fois politique, mais aussi d'humour. Je pense que leur précédent, c'était I Feel Good, qui en plus avait quelques stars à l'affiche.
Moi, je pense qu'ils sont un peu tiraillés entre deux aspects de leur cinéma. Il y a le côté clairement humoristique, burlesque. Enfin, burlesque, dans un certain type de burlesque, on en reparlera peut-être. Mais... Et puis, il y a le côté plus artistique, plus esthétique. Et clairement, Avida, c'était un film très esthétique, entre guillemets. Il y avait beaucoup d'ambition formelle. Et d'ailleurs, leurs deux premiers films, c'est du noir et blanc. Et je suis pas sûr que ce soit tout à fait juste parce qu'ils étaient fauchés. C'est aussi parce que je pense qu'ils aiment le noir et blanc. Ils aiment aussi un certain grain dans la pellicule. Quand tu regardes Mammouth, tu vois qu'ils cherchent une patine spécifique. Puis ils ont une forme de... Enfin, ils composent vraiment leurs plans. Donc, je pense qu'ils ont quand même un peu une ambition esthétique. Et je pense que ça leur fait bien plaisir d'être sélectionnés en festival et voire d'être récompensés, quoi. Alors après, il y a l'aspect... c'est quand même des gens qui écrivent des comédies. Et comme tu l'évoquais, Daniel, c'est vrai qu'on voit peu de comédies en festival, en tout cas dans les festivals les plus prestigieux. Donc voilà, ils composent à mi-chemin entre leur velléité comique et l'aspect esthétique.
Ouais, enfin, sur la comédie, pour moi, c'est presque de la comédie par accident, en fait, chez Delépine et Carverne, en fait. Il y a vraiment une volonté, je pense ils sont pas sordides, hein, les gars, hein, c'est pas du tout ça l'idée, mais je pense que l'humour, il vient, c'est une sorte d'humour du désespoir. C'est un humour qui te dit, en gros, bah, on va plutôt en rire qu'en pleurer parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. C'est un rire un peu jaune d'une certaine façon, un rire un petit peu qui vient de très très loin parce que c'est tellement porteur. Tous leurs films sont porteurs quand même de gros messages. Alors peut-être pas de messages sociaux, c'est pas tant ça, mais il y a quand même un fond social très très fort. Il y a un désespoir assez fort et ils en tirent un absurde absolument extraordinaire. Et c'est-à-dire qu'ils vont étirer, montrer à quel point une société est absurde, montrer à quel point des situations sont absurdes, montrer à quel point une certaine partie de la population, parce qu'il faut voir quel type de population ils filment aussi, c'est toujours plutôt les classes populaires en particulier, et de montrer l'absurde de la situation de cette classe-là. Et donc c'est un rire assez salvateur, mais pas un rire ni moqueur, ni où on se donne des coups de coude, quoi, genre, ah bah oui, je comprends bien. Non, c'est un rire vraiment un peu dur au bout du compte, quoi. Et c'est vrai que tu parlais de burlesque, je sais pas si c'est burlesque le mot que j'emploierais vraiment chez eux. Pour moi, c'est vraiment absurde, c'est punk aussi, ils ont c'est vraiment des punks, ces gars-là. Et d'une certaine façon, j'ai envie de dire, il y a une sorte d'absurde terrien. Et quand je dis terrien, c'est parce que, et ce n'est pas une critique, hein, je viens de la même ville que Benoît Delépine, hein, Saint-Quentin dans l'Aisne, représente. Mais c'est ce même humour, c'est un humour de paysan, en fait, d'une certaine façon. C'est un humour de gens du fin fond de la Picardie, du fin fond de la province, et qui sont en train de prendre la parole, de prendre la voix et de faire parler ceux qu'on n'entend pas, et de montrer et l'absurdité et l'humour de situations assez dramatiques. Et je pense que c'est, moi j'en regarde ça et ça me fait un bien fou. C'est vraiment cathartique de regarder Carverne et Delépine. C'est ce rire là que j'aime bien chez eux.
Il y a un truc chez eux, c'est que d'abord Carverne, Delépine et aussi on peut l'ajouter au lot, Jules-Édouard Moustique, tous ces mecs là viennent quand même de la grande école Canal+ et Groland, mais ils viennent pas exactement de... Évidemment ils revendiquent cet humour Canal+, mais c'était la frange, on va qualifier, d'extrême gauche de Canal+, c'est-à-dire quand les Guignols, ils étaient peut-être une parole un petit peu plus décalée par rapport au pouvoir, eux étaient carrément franchement engagés. Leur but de leur sketch, parfois d'une violence assez incroyable, c'était aussi de montrer la violence de notre société. Et je vais vous dire un truc, moi j'adore Groland, j'ai été client pendant des années, et on y voyait quand même une espèce d'héritage à la fois de l'écho des savanes, mais aussi de Charlie Hebdo. C'est pas un hasard que ces mecs-là ensuite se sont retrouvés au cinéma pour faire c'est parfois à la limite des pamphlets politiques.
Ouais, bah en fait je pense que c'est des gens qui ont grandi dans la France rurale, en fait, et que, enfin, c'est le monde qu'ils connaissent et c'est le monde qu'ils dépeignent, par extension, dans Groland et ensuite dans leurs films. Alors après, tu dis que c'est pas le même humour que les Guignols. C'est quand même le même humour, mais appliqué à des domaines différents, je dirais. Et avec peut-être un côté plus trash pour Groland, parce qu'ils ont une inclination vers ça aussi. Mais, même si
oui,
le sujet d'étude
caca,
est différent.
Ils n'hésitent pas, ouais. Ils n'hésitent pas à des trucs.
C'est ça. Et donc, mais dans leurs films, il y a moins ça. Enfin, je dirais que leurs films sont quand même moins trash et même de moins en moins trash. Ultra, c'est peut-être leur plus trash, je dirais.
Oui, c'est de moins en moins trash, mais c'est pas pour. Mais je trouve qu'ils sont de moins en moins trash et visuellement et dans leurs gags. En effet, il y a moins de caca ou de pénis ou de personnes âgées qui se font dessus, quoi. Enfin, il y a moins tout ça, mais je les trouve plus durs Je trouve qu'ils sont presque encore plus radicalisés d'une certaine façon que leur sketch de Groland. En fait, déjà Groland, c'était assez ça y allait pas par le bout de la cuillère, quoi. C'était ils faisaient pas semblant, mais c'était un bon moyen de tester toutes leurs ambitions politiques qu'ils ont quand même, leurs revendications. Et encore une fois, cette observation d'une partie de la population qui est complètement laissée pour compte et qui donc encore une fois va tirer vers l'absurde, mais je trouve que leurs films, parce que peut-être aussi ils ont plus d'étendue, ils ont une possibilité de pas se limiter à un sketch, mais de tendre ça sur 1h20, 1h30, 1h40, quoi. Je les trouve encore plus francs, plus durs, et aussi plus poétiques, énormément plus poétiques. Mais au bout du compte, il y a un vrai goût amer derrière, assez difficile en fait, que moi j'aime beaucoup. Mais justement, j'aime bien que c'est des gens que je pense très très entiers par rapport à ce qu'ils disent dans leurs films et ce qu'ils doivent à mon avis défendre dans la vraie vie. Et c'est un vrai cinéma de tract politique que je trouve très très fort.
Alors, il y a une dizaine de films maintenant, en comptant le dernier donc, que je n'ai pas vu, et Bande de salauds. c'est une dizaine de films qui sont très représentatifs quand même de leur style. Si vous aviez à en choisir un ou deux chacun, ce qui vous semble le plus pertinent en fait pour faire découvrir un peu leur cinéma, ça serait lequel, Hugo, puisque tu as eu le temps de réfléchir en confinement à cette grave question.
C'est vraiment pas facile parce qu'il y a vraiment. Enfin, en fait, en même temps, il y a une ligne directrice et en même temps, tous les films sont assez différents. J'irais Mammouth peut-être. Parce que c'est vraiment le sens de leur cinéma. En général, c'est des road movies où à chaque étape, le personnage principal rencontre une nouvelle personne haute en couleur, disons. Et donc là, le personnage principal, c'est Depardieu. Donc déjà, tu pars avec un super avantage. Je trouve que c'est à la fois très drôle et à la fois très poétique. Et
faut expliquer ce qui se passe. C'est Depardieu qui part en road movie, ouais, à bord d'une moto à la recherche de tous les employeurs qui n'ont pas déclaré tous ces trimestres alors qu'ils voudraient prendre sa retraite. Et vous savez quoi? Vous rigolez. Non. Mais pendant le confinement, moi, j'ai eu les coups de fil et tout ça, les bidules. Ça, c'est ce qui m'attend plus tard. Ça, c'est ma vie, c'est la vie de Depardieu dans ce film, c'est moi plus tard.
c'est tous les pigistes, c'est tous les indépendants.
C'est tous les laissés pour compte, c'est tous les confinés du contrat à durée très déterminé.
Ouais, il y a ce côté un petit peu kafkaïen qui est dans tous leurs films, le côté administratif, le côté une personne seule face à l'administration, quoi. C'était aussi ça dans Altra, notamment, leur premier film. Et en fait, tu parlais du message tout à l'heure qu'ils ont sous-jacent derrière leur film. Et je trouve que parfois, leur message est un peu trop flagrant. Enfin, on sent qu'ils veulent faire rentrer leur message dans leur film. Et je trouve que dans Mammouth, c'est plus diffus, c'est mieux foutu. Notamment parce qu'on suit un personnage qui se balade sur sa moto. Bon, il a un objectif et évidemment, c'est quand même lié à un contexte social. Mais je trouve que c'est plus ample que ça, quoi. C'est plus ample que juste la dénonciation d'un système.
Et toi, Perrine, quelle serait après toi, la bonne porte d'introduction? Pas forcément le meilleur film, mais la bonne porte d'introduction.
Je suis assez d'accord avec Hugo, c'est assez difficile de choisir. Moi, j'avoue, j'aime vraiment tout Caverne de l'Épine. Mais je vais dire que pour moi, le film qui est une sorte de manifeste presque de leur travail, c'est Louise Michel, que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Louise Michel, où c'est les personnages principaux, c'est Yolande Moreau et Bouly Lanners. En fait, c'est Yolande Moreau qui est une... Alors, je ne sais plus dans quel domaine elle travaille, dans une usine en tout cas. Et en gros, elle se retrouve... Enfin, tout le monde se retrouve au chômage, dans une usine de textile, je crois. Toutes les ouvrières se retrouvent au chômage. Et sans indemnité, sans rien, tout le monde... Enfin, tout le patronat s'est barré, quoi. Et donc, elles vont décider de mettre l'argent qu'elles ont en commun pour prend un, comment on appelle ça, un tueur à gages,
un hitman,
un tueur professionnel, donc Bully la Nurse. Donc voilà, on imagine bien le tueur professionnel Bully la Nurse.
Très esprit Groland, Bully la Nurse, il est très.
Ah ouais, mais il est génial.
Il
a cette douceur, Bully la Nurse, qui est absolument incroyable. Mais et donc pour qu'il aille, ils aillent tuer le patron, quoi. Enfin le patron du patron, enfin le patron. Et sauf qu'en fait, on va découvrir qu'il n'y a pas un patron, c'est le patron du patron du patron du patron. C'était encore l'idée dont parlait Hugo de Kafkaïen, encore une fois, l'idée que tout ça s'entrechoque, s'entremêle, qu'il n'y a pas de fin à ce pouvoir écrasant.
Et il y a des sous-patrons, des sous-chefs.
Ah bah c'est
il y a un sous-chef, je crois que c'est Francis Kuntz.
Je me souviens plus. C'est le sous-directeur.
Ouais.
Le sous-directeur Francis Kuntz. Mais, et en fait, moi, je trouve que le film a une, voilà, ce côté punk, complètement revanchard, gardé classe, ultra militant, démentiel, mais aussi avec une inventivité, une drôlerie, une douceur aussi, parfois qui va émaner. Et en effet, cette idée du road trip, de la rencontre, qui va nourrir tout le temps les personnages, l'idée que l'autre est plus fou que toi, mais c'est pas grave en fait. Et finalement, on est un monde de fous parce que le monde est fou tout simplement. Et notamment, surtout Benoît Poulvorde dans cette histoire, qui est persuadé d'être surveillé par la NASA ou la NSA ou je sais pas quoi, et qui marche qu'avec des parapluies de la couleur du sol pour pas se faire repérer par les satellites. Moi, je pense que c'est un des trucs les plus drôles que j'ai jamais vu. Donc, pour moi, ouais, Louise Michel, c'est à la fois le côté absurde. Ça va très très loin parce que Louise Michel, c'est cette idée-là révolutionnaire qui s'était déguisée en homme pour être voilà. Pour pouvoir faire la révolution. Et on va jouer sur cette idée des genres, de l'identité, de la personne. Et ça, tout ça, ça pousse dans un absurde total qui est pour moi l'essence même. On a tout ce qu'est Caverne de Lépine dans Louise Michel.
Et pour ma part, si vous me permettez, j'en ajoute un dans ma série. Et je pense que c'est le plus accessible. Et c'est pas simplement parce qu'il y a Jean Dujardin qui est quand même la star accessible française. T'as l'impression qu'il pourrait jouer à la fois le connard de service, mais aussi le patron dégueulasse. Et là, il joue un espèce de bon à rien.
Start-upper de la Start-up Nation, quoi.
Un start-upper, mais il est start-upper de lui-même, quoi. C'est-à-dire, il a rien d'autre à proposer que son bagout. Et ça le rend encore plus génial. Et évidemment, il va avoir affaire à Yolande Moreau. Dans ce film-là, en tout cas, il est tourné en grande partie dans le village Emmaüs qui se trouve,
c'était vers Toulouse, non?
Dans le sud, mais possible. Et c'était Pau, peut-être. Et du coup, l'endroit devient un espèce d'endroit ultra esthétique, mais en même temps,
oui,
ils ont réussi à rendre le film très très beau. Je pense que c'est leur plus beau film, plastiquement parlant, mais en même temps, sans tomber dans cette espèce d'idée qui est très facile de les gens simples sont heureux, cette espèce d'ode à l'imbécilité heureuse. Et ils sont vraiment pas du tout dans ce trip-là, puisque ça les emmène à... Pour une fois, c'est un film qui va jusque dans les pays de l'Est, sans être moqueur avec les pays de l'Est, parce que putain, j'en ai vu. J'en ai les Budapest et tout ça, c'est bon, j'ai donné. Et je viens de l'Est, donc voilà, stop. Donc, ils arrivent à passer à côté des monuments bulgares sans être condescendants, c'est assez rigolo. Et non, vraiment, j'adore ce film. J'adore I Feel Good. Et je pense que c'est leur c'est le film le plus synthétique de leur style. C'est-à-dire, il y a tout. Il y a les pauvres. Il y a quand même le mec dégueulasse. Il y a une critique constante de ce qui était entre guillemets le sarkozisme, quoi. Enfin, je veux dire,
Jean Dujardin,
il incarne ça, quoi. Sans doute, je sais pas. Alors, je me positionnerai pas là-dessus. Je suis pas sûr qu'il l'aime aussi. Mais
je pense pas.
Voilà, je vous recommanderai celui-là. Non, mais j'ai l'impression que c'est vraiment des anards. Je crois que personne n'a de.
Ah, mais c'est des vrais anards, des vrais de vrais.
Non, mais encore moins Macron, quoi.
Personne n'a de. Ouais. Ouais, mais je crois que encore moins tous, en fait. Tu vois, quand tu vois des trucs comme Mammouth, enfin, c'est ce que vous disiez, hein, c'est un peu kafkaïen, c'est ce relationnel à une société qui est plus forte que les gens et qui les écrase. C'est quand même des choses assez fortes sur la société. Alors, je trouve personnellement que souvent, il y a des moments où leur
film s'égare et genre, on en a parlé pour Quentin Dupieux, on va en reparler ici, c'est qu'il y a parfois des ventres mous de, ils savent pas enchaîner sur le deuxième et troisième tiers et parfois tu te dis où est-ce que ce film va. Et je pense que à ce titre-là, il y en a un qui était celui avec Welbeck, c'est lequel c'était ?
Ah oui, Near Death Experience.
Near Death Experience, je trouve que celui-là était un peu un peu comme ça quoi.
C'est-à-dire, pour moi le problème c'est Welbeck, c'est pas eux. Hein.
C'est vrai. Alors, c'est... vrai aussi.
Je suis d'accord sur le diagnostic que c'est un film qui est plutôt raté et même dès le début je trouve. Mais je trouve que c'est parce que justement c'est pas à cause de Welbeck, c'est parce qu'ils avaient Welbeck en premier rôle, donc ils ont voulu écrire un texte qui correspondait à Welbeck. Sauf qu'il n'y a qu'un seul Welbeck et c'est impossible d'écrire du Welbeck. Et ils ont fait un... C'est un monologue, en fait, ce film. Et c'est un monologue qui est indigent, quoi. Enfin, ça raconte rien du tout. Et en plus, c'est pas vraiment un road movie parce que le mec est tout seul dans la montagne, donc il se passe quasiment rien. Donc t'as juste Welbeck tout seul. En fait, ils se sont un peu reposés sur Welbeck et sur l'aura de Welbeck, parce que c'est vrai qu'il est assez fascinant, même son corps est fascinant. Et ils se sont dit, ça va suffire, et on écrit un petit truc.
Faut préciser, Hugo est très, très, très...
Oui, c'est un Welbeckien.
Welbeck sexuel, tu l'avais dit. Tu l'avais dit lors du dernier film de Welbeck, donc c'était le Thalasso. Toi, en fait, juste regarder Welbeck comme si c'était un animal dans une cage et qui évolue dans un milieu qui lui est hostile, ça te fait kiffer.
Bah, pour autant, ce film m'a pas plu que tu as. Parce que ça ne suffit pas. Le corps de Welbeck ne me suffit pas.
Ça te suffit plus, ouais. C'est terrible. Oui, non, parce que je voulais juste revenir sur le fait que tu dis que ça a du mal, ils ont des ventres mous et je suis assez d'accord. Parfois, c'est vrai. Mais en fait, ce que j'aime bien chez eux, c'est leur jusqu'au boutisme. Ils vont jusqu'au. Ils ont pas peur de. Alors parfois, ça va un petit peu, peut-être un petit peu trop loin. Ça passe par des mauvais chemins, mais en fait, ils ont pas peur. Encore une fois, leur anarchie, elle est aussi dans leur cinéma. Et justement, tiens, mais t'as mentionné Saint-Amour, donc je vais enchaîner sur Saint-Amour, mais parce que moi, c'est un film que j'aime énormément, alors que je déteste la fin de Saint-Amour. Je trouve que la fin, pour moi, je ne la comprends pas. Et autant j'aime leur non-sens, j'aime leurs excès, j'aime quand ils vont jusqu'au bout. Là, pour le coup, je trouve qu'elle vient péter une dynamique de film extraordinaire. Qui est, pour le coup, je pense que Saint-Amour, c'est leur film le plus émouvant. Il a quelque chose de terriblement bouleversant, notamment dans la relation de Pardieu-Poulvord, qui est absolument incroyable, qui, moi, m'a mis les larmes aux yeux pendant tout le film. Un truc aussi beaucoup plus... ce qui n'est pas tellement leur sujet d'habitude, mais là qui questionne aussi de la masculinité, de se poser la question de ce que c'est que d'être un homme et qu'est-ce que c'est que ça veut dire d'aimer et de pas être aimé en retour. Et je trouve qu'il y a quelque chose de, je pense que vraiment c'est leur film le plus doux. Et c'est pour ça que la fin pour moi est tellement décevante, parce que tout le film tient une ligne de douceur que je ne vois pas dans le, enfin en tout cas de ce type de douceur que je n'ai pas vu dans leurs autres films totalement. Et moi je trouve que c'est assez fabuleux. Puis moi l'idée du Tour de France, la route des vins au Salon de l'Agriculture, je suis assez fan comme idée. Et c'est un truc que je testerai un jour.
Alors, toi, tu peux le tester, mais il y a un gars qui l'a testé, c'est Poulvord.
Ah bah Poulvord, c'est sûr.
Poulvord
ne joue pas.
Il simule pas, ouais. Il y va à fond.
Et Depardieu non plus, d'ailleurs.
À l'écran, en fait.
Non, mais Depardieu, il boit pas dans le film.
Ah bon ?
Ah non, il boit pas. Il est très peu.
C'était déjà sa période d'abstinence.
Très peu. Il est juste très, très touchant.
Alors, donc, du coup, pour vous, si on avait un à recommander, alors ça vous restez sur vos positions.
Ouais, mais moi je suis d'accord sur Louise Michel, c'est très très bien aussi, très très drôle. Et j'aimerais bien citer Altra aussi, parce que c'est leur premier, qui est assez radical, donc qui est noir et blanc. En fait, c'est l'histoire de deux agriculteurs qui se détestent et au cours d'une rixe, je sais plus ce qui se passe exactement, mais ils se retrouvent tous les deux tétraplégiques. Et ils partent, et en fait, je crois que c'est à cause d'une machine. Une machine finlandaise. Et donc, ils décident, tous les deux, d'aller trouver le patron de la boîte qui produit cette machine finlandaise, qui s'appelle Altra. Et donc, c'est leur premier road movie. Il y a vraiment tous les traceurs de leur cinéma, pour parler comme un Top Chef. Et c'est eux deux qui jouent les rôles principaux et ils sont très très drôles. Il y a déjà Bully Lanners qui est quasiment dans tous leurs films. Il y a une séquence extraordinaire avec Bully Lanners qui chante dans un bar. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc c'est dur de les départager, mais je pense que ouais, le top 3 c'est Altra, Louise Michel, Mammouth.
Moi je rajouterais juste. Parce que je pensais, tu redisais Altra, voilà, c'est des ils vont se venger, enfin, en tout cas ils vont essayer de faire payer les comptes à la société hollandaise. Et pour moi c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment l'idée du David contre Goliath en permanence dans leur cinéma, que je trouve génial, mais encore une fois poussé à l'absurde. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup penser à Dupontel, évidemment, Albert Dupontel, qui est vraiment ce même genre de cinéma et ce même genre de message en fait. Peut-être que Dupontel c'est encore plus énervé. C'est beaucoup plus agressif, c'est plus énervé, mais pour moi, c'est le même type de c'est pour ça qu'ils s'entendent assez bien. Mais pour moi, sinon, je recommanderais un petit court-métrage qu'ils avaient fait à Cannes, qui avait été diffusé à Cannes, et la semaine de la critique, et qui s'appelait Yabasta. Si vous avez l'occasion de le voir, Yabasta, c'est absolument génial. C'est un centre spécialisé pour les handicapés mentaux, et en fait, il va être fermé. Et ils ont juste une chance pour montrer en quoi le centre est important. Et on va comprendre qu'est-ce que les éducateurs font faire aux handicapés mentaux pour pouvoir sauver le centre. C'est Ocean's Eleven dans un centre pour handicapés mentaux. C'est absolument dément. C'est génialissime.
Merci de nous avoir fait les bonus du DVD.
Ah non, mais c'est génial. C'est 11 minutes de pur bonheur. Je vous jure, c'est 11 minutes démentielles.
J'ai remarqué que vous êtes gentil. Personne n'a cité Michael Culkin contre la Warner News Company, qui est un film que j'ai vu en salle, je peux vous le dire. Et c'était terrifiant parce que j'y allais confiant. Et donc, le contrat au début a été un peu compliqué à respecter parce que ma première entrée avec Dele Pine, en fait, puisque c'est Dele Pine qui était scénariste de ce film, c'était ça. Et je me suis dit merde. Et en fait, je crois qu'ils ont compris un truc avec leur cinéma, c'est que ça sert à rien de faire de la grosse machine et d'être produit par les chaînes de télé, d'avoir du gros budget. En fait, il vaut mieux soigner ton propos que essayer de soigner ton propos, parce qu'ils sont pas tous réussis leurs films, mais au moins de faire le maximum avec les moyens du bord. En fait, au moins leurs moyens de production sont raccord avec ce qu'ils font. Ils essayent pas de nous survendre quelque chose, et ça se voit. Je pense que c'est grâce à ça qu'ils peuvent avoir et Depardieu et d'autres grands acteurs qui baissent leur cachet, en fait, parce que c'est vraiment bricolé souvent de briques et de brocs.
Ouais, ils ont plein de potes très très drôles d'ailleurs, dont Dupontel, et souvent les personnages secondaires dans leurs films sont exceptionnels.
C'est
quoi.
Des merveilles.
Alors, c'est souvent des dessinateurs de satiriques. Des gens qui sortent de n'importe où. Dans Avida, il y a Jean-Claude Carrière, par exemple. On ne sait pas d'où ils le connaissent, mais c'est très bien d'utiliser Jean-Claude Carrière comme second rôle. T'as Dupontel, t'as du Poulvord, t'as du
Houellebecq dans tous les sens.
Ouais, Philippe Catherine. Brigitte Fontaine.
Catherine qui avait fait les musiques, même. C'était pas Catherine qui avait fait la musique, c'était Sébastien Tellier.
Pour lequel?
Pour Saint-Amour.
Pour Saint-Amour
C'était Saint-Amour. Ouais. Saint-Amour. Ah ouais. Saint-Amour. Ouf. Non, ils ont vraiment des galeries de portraits. Et quand ils manquent de galeries un peu de gueule cassée, ils se prennent eux-mêmes.
Oui.
Au moins, ils ont un peu.
Ils ont eux-mêmes des tronches, donc c'est pas mal.
Voilà, et il suffit, tu sais, comme tu disais, il suffit qu'ils picolent un petit peu pour.
Non, puis c'est un freak show qui est jamais moqueur, et moi j'aime énormément ça. Ouais.
Et même quand ils font la tournée des vieilles personnes pour accepter de jouer des petits rôles dans Groland, ils y vont avec amour. Je veux dire, le vieux monsieur qui sort les poubelles avec les couilles dans du papier à lui. Je veux dire, le mec, ils l'ont trouvé, ils lui ont pas menti, hein. Ils lui ont dit, c'est ce qui va se passer. Et le mec, il a dit, OK.
Mais bien sûr, mais est-ce qu'ils y vont avec toute la bonhomie du monde, en fait, quand ils font ça? Et encore une fois, l'idée n'est vraiment pas de se foutre la gueule des gens. C'est plutôt de leur dire, venez, on va rigoler ensemble, quoi. Et vous aussi, vous en avez marre et vous voulez faire un gros doigt à tout le monde? Eh ben, venez, mettez-vous les couilles dans le papier d'alu.
C'est en train de nous refaire le grand soir, quand même.
Et c'est surtout c'est leurs potes, en fait. Enfin, tous les gens qui jouent dans leurs films, c'est des mecs incroyables. C'est leurs potes.
Les mecs qu'ils ont rencontrés au bistrot du coin, parce que c'est pas les derniers. Hein.
C'est ça.
Non, et c'est absolument. Mais c'est génial. C'est des vrais bons vivants. Pour moi, c'est des terriens. Et j'adore ça. C'est ça que j'aime chez eux.
Voilà, on a fait une bonne rétrospective. Hein. Je remarque que vous avez été sympa. Vous n'avez pas mentionné Le Grand Soir, qui n'est pas leur plus réussi. Hein.
Ah, moi, j'aime bien. Mais pas grâce surtout à Dupontel et Poulvord, quoi. Enfin, c'est souvent leurs acteurs qui portent les films. en plus du reste.
Ah, je suis assez d'accord. Oui. Ils choisissent bien les gens avec qui ils travaillent et ces acteurs-là, à chaque fois, connaissent bien le propos et le travail de Carverne et de Lépine. Donc finalement, il y a une belle symbiose qui fonctionne toujours merveilleusement bien et aussi dans Effacer l'historique dans le prochain.
Alors, c'est la meilleure conclusion qu'on pouvait faire. C'est. Moi, j'ai pas vu Effacer l'historique. Combien vous lui donnez pour aller le voir? Non, je plaisante. On va pas chiffrer un film alors qu'il est pas encore
on
sorti.
On le refera de toute façon. C'est comme ça sort en fin d'année.
C'est possible.
Et surtout donner l'argent aux salles.
Est-ce que j'ai le droit d'être confiant?
Ah bah oui. Pour moi, oui.
C'est un bon film. Juste bon. Vas-y.
Moi, je trouve que c'est plutôt un bon film parce que de toute façon, ils font des bons films. Après, je trouve que le message est un petit peu trop. Enfin, on sent qu'ils ont envie de dire quelque chose. Et je trouve que le message est un peu suranné, quoi. En gros, c'est de dire ah là, les jeunes avec leur smartphone. Enfin, je veux dire, c'est.
C'est pas ça.
Ouf, c'est quand même beaucoup ça.
Oui, parce qu'il est question, de chantage à la sextape.
Ouais,
à un moment donné,
c'est un peu un film de boomer, quoi. Mais, les trois personnages principaux, enfin, les trois interprètes principaux sont exceptionnels. Comme souvent chez eux.
C'est qui? C'est
Blanche Gardin, Corinne Maziero et Denis Podalydès.
Ils sont extraordinaires.
Cool. Ah, ils sont géniaux. Et non, je suis pas d'accord que c'est un truc de boomer. Pour moi, c'est un film qui est justement magnifique sur un désespoir social. Alors, c'est pas nouveau chez eux. C'est-à-dire que c'est une redite de quelque chose. Mais en plus, avec le soupçon de la modernité. Donc l'idée que le moderne, là maintenant d'un seul coup on prend le risque et la peur d'être remplacé par les machines, les objets et l'ordinateur. Et c'est peut-être là où tu dis qu'il y a un truc de boomer un petit peu, mais moi je pense que c'est une vraie crainte de beaucoup de gens. Et en fait c'est un film de gilets jaunes et moi je trouve ça très chouette.
Ouais, enfin c'est juste que moi
j'aurais donné envie.
J'en ai un petit peu marre de ces plans dans les films où il y a des personnages qui essaient d'être ensemble et quelqu'un isolé avec un smartphone. Je trouve que c'est un truc qui a déjà été beaucoup fait et il y a pas mal d'idées comme ça dans le film. Donc je trouve que c'est pas là où c'est le plus efficace.
Hugo, tu m'as quand même hypé. Vous m'avez hypé tous les deux et j'ai hâte de le voir.
Non mais faut y aller.
Ah non, bien sûr, j'irai le voir en salle et tout. D'ailleurs, je vous attends à la salle de Bussy, là, en ce moment même. je sais pas où vous êtes. Précision, la salle de Bussy, c'est une des salles à Cannes. Et c'est là où, normalement, on
devrait.
Si on avait pris des billets, si on
avait. Ah bah, on a la séance de 19h, là. On est dedans, là.
La séance de 19h. Mais bon, toi, t'es une badgée, toi, t'es une rose.
J'ai jamais été rose, moi. Putain.
C'est vrai?
Non, l'arnaque. D'ailleurs, j'ai un petit message pour le Festival de Cannes pour l'année prochaine. Je n'ai jamais été rose. Bisous.
Nous, on est El Pueblo, on est tout en bas. Nous sommes les cavernes des épines des festivals. En tout cas, merci à vous deux d'avoir participé à ce spécial. J'oserais dire Groland. Je tiens à dédier cette émission à quelqu'un qui est un peu le totem de Groland et que j'ai une énorme affection pour ce mec. Bah, c'est Salambro, ouais, quoi. Ouais. C'est le président de notre principauté. Ouais. Et il était le fruit de milliards de sketchs de Groland. Et il avait un humour absolument, absolument génial. Et il faisait partie de ces gueules, de ces portraits qu'on voyait dans leur univers. Et voilà.
Et une vraie gentille personne.
Ouais, oui, il est adorable.
Il était très gentil. Adorable. Il était très gentil.
Ouais. En plus, tu
en
vois.
En plus.
En plus de pas être un connard. En plus, c'était un gars vraiment super. Voilà. Donc, je pense à lui au moment de faire cette émission de ex-confinex pour l'instant, de gens confinés mais qui ont le droit de sortir mais qui sortent pas encore. On fait ça depuis encore nos chaumières. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé. Merci Hugo. Merci Perrine.
Merci à
Daniel.
Et merci aux réalisateurs Solène et Quentin, les altermondialistes du montage. Et pour nous retrouver, c'est William MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées au podcast. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Et là, vous avez le droit d'en parler autour de vous à condition de garder la distanciation, les gestes barrières. Voilà, vous pouvez en parler, mais à une distance de sécurité, genre à 1 heure, à 1,5 mètre, vous pouvez dire « Eh, j'ai écouté William MDR, c'est vraiment bien, vas-y, c'est quoi ce podcast ?» Je vous garantis que vous allez passer un meilleur moment que les podcasts de Nikos Ayagas. La semaine
semaine. C'est complètement gratuit, c'est gratuit, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. La semaine prochaine. Ça se trouve, il nous écoute, il se dit oh merde, pourquoi cette baston, c'est complètement gratuite. Je ne sais pas. J'ai vu sa tête, il fait des podcasts, j'ai fait quoi. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec une nouvelle comédie ou même un nouvel univers, parce que pour l'instant, les salles ne sont pas réouvertes. On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao.